With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Sophie Toscan-Duplantier a été retrouvée sauvagement assassinée à la veille de Noël en 1996, près de sa maison de vacances à Skull, en Irlande. Elle avait 39 ans, un fils unique de 15 ans, et elle était l'épouse d'un célèbre producteur de cinéma. Ce crime, d'après la justice française, a été commis par un Anglais, âgé de 63 ans, Ian Bailey. Tout l'accuse, mais il n'y a aucune preuve irréfutable contre lui, et c'est pour ça qu'il n'est pas poursuivi par la justice irlandaise. Cet épisode de Code Source est raconté par Louise Colcombé, du service police-justice du Parisien.
Bonjour à tous. Demain, un acte de justice attendu depuis 22 ans. La cour d'assises de Paris jugera le meurtrier présumé de Sophie Toscan-Duplantier.
Le procès de Ian Bailey se tient fin mai 2019 à Paris, dans l'ancien palais de justice. Louise Colcombé, à ce moment-là, le meurtrier présumé de Sophie Toscan-Duplantier, vous l'avez déjà rencontré chez lui en Irlande, mais il n'est pas présent aux audiences. C'est un procès par défaut.
Le procès par défaut, c'est donc par définition en l'absence de l'accusé. Il a le droit de se faire représenter par un avocat, ce que Bailey n'a pas choisi de faire. Donc il a complètement boycotté l'audience. Techniquement, il n'y a pas de juré populaire. Il y a trois magistrats qui vont juger l'affaire. Et ça va nécessairement plus vite qu'un procès classique, puisque le principal intéressé ne peut pas être interrogé.
Les audiences vont durer quelques jours, c'est ça ?
Le procès va durer 5 jours au total.
Ce crime a été commis à la veille de Noël, en 1996, dans la nuit du 22 au 23 décembre, en Irlande, à Skull.
Skull, on est vraiment au sud de l'Irlande, dans le comté de Cork. C'est un peu le bout du monde. Hein. On est face au phare du Fastnet, au bord de mer. On est même dans un hameau de Skull, en fait, sur des petites routes étroites, vraiment de campagne. C'est un coin très isolé. C'est d'ailleurs pour ça que Sophie Toscan-Duplantier avait acheté cette maison, face à la mer, dans un coin qu'il faut vraiment connaître pour y aller.
En 1996, Ian Bailey a 39 ans. Il est comment physiquement à ce moment-là ?
Ian Bailey, c'est quelqu'un qui est très imposant. Il a une carrure imposante, il a une stature, il dégage quelque chose vraiment. À 39 ans, il a un look un peu atypique. Il porte des longs manteaux noirs en cuir, les cheveux longs, un air un peu mystérieux. Il est assez magnétique, plutôt bel homme d'ailleurs à l'époque. Et voilà, il passe vraiment pas inaperçu dans le village.
Et il fait quoi à Skull ?
C'est un Anglais, il n'est pas irlandais, mais il s'est passionné pour la culture irlandaise à tel point qu'il a voulu changer son nom en Ian Bailey. Il fait un peu de tout, des travaux de jardinage, il est journaliste pigiste, mais il avait quitté une rédaction. Il essaye de faire quelques articles de temps en temps depuis Skull. Il aime aussi jouer de la musique, réciter des poèmes dans des pubs. Il fait aussi des sculptures sur bois, quelqu'un d'un peu touche-à-tout.
Il boit beaucoup aussi.
Oui, il est réputé pour ses beuveries. Il est souvent vu ivre. Et voilà, il fréquente pas mal les pubs du village.
Sophie Toscan-Duplantier, elle, est la femme d'un célèbre producteur de cinéma, Daniel Toscan-Duplantier. Elle a 39 ans, elle aussi. Elle est belle, blonde. Elle a quelques taches de rousseur sur le visage. Elle a un fils de 15 ans qu'elle a eu d'une première union. Il n'est pas là au moment des faits, mais ils sont très proches.
Il n'est pas là au moment des faits parce qu'elle, elle a voulu venir dans cette maison, c'est son petit coin à elle pour se ressourcer. Elle a eu ce fils qu'elle élève beaucoup elle-même, ils sont très fusionnels, elle l'emmène dans beaucoup de choses, des événements culturels, elle ne le traite pas totalement comme un enfant, elle le prend vraiment comme presque un ami, enfin on sent que vraiment il y a quelque chose entre eux. Sa mère, c'était tout pour lui.
Que fait-elle dans ce village irlandais? Vous l'avez dit, elle est là pour se ressourcer.
Elle est venue dans sa maison qu'elle a achetée parce que c'était son souhait le plus cher depuis qu'elle avait visité l'Irlande en étant adolescente. Elle était tombée amoureuse du coin et dès qu'elle a eu quelques sous, elle a acheté cette maison qu'elle a décorée, façonnée elle-même. C'est son petit coin à elle où elle aime venir soit avec des amis ou toute seule. Et là, en l'occurrence, elle était venue toute seule pour régler 2-3 affaires et puis organiser sa vie et prendre un bol d'air frais.
Mais donc, elle allait repartir pour Noël.
Elle avait prévu de repartir pour fêter Noël à Paris. Un vol l'attendait.
Le matin du 23 décembre, une voisine découvre le corps de Sophie Toscan-Duplantier.
C'est sa voisine la plus proche qui la découvre. En fait, elle part faire des courses et elle emprunte un petit chemin sinueux qui longe les deux propriétés. Elle découvre le corps à terre. De loin, elle croit au départ qu'il s'agit d'un mannequin. Et puis, elle s'approche et elle voit le corps près du portail d'entrée. Elle est allongée au sol, sur le dos, dans ses vêtements de nuit, partiellement relevés. Et elle repart immédiatement parce qu'elle comprend qu'il s'est passé quelque chose de grave.
Le corps porte de très nombreuses blessures.
Le corps, il est couvert de blessures, mais principalement en fait à la tête. Pour avoir vu les photos projetées au procès, c'est vraiment très 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 impressionnant. Ce qui est impressionnant sur ces images, c'est qu'on comprend l'extrême violence des coups. L'arme du crime, c'est un parpaing qui a été descellé, projeté à toute force. Le crâne, il est enfoncé. Enfin, il y a pas de mots, c'est assez indescriptif. C'est vraiment... je me souviens, quand on a vu les photos, il y a un frisson qui a parcouru la salle parce que c'était vraiment impressionnant et horrible en fait.
À côté du corps, il y a donc ce parpaing et aussi une pierre.
Il y a une pierre ensanglantée qui a vraisemblablement servi aussi à donner des coups, notamment dans le dos de la victime. Et puis on va noter aussi des blessures sur les jambes, des griffures de ronces qui entourent la maison et des nombreuses lésions de défense qui prouvent qu'elle s'est débattue.
Elle a essayé de s'enfuir.
Elle a essayé de s'enfuir, on le sait, parce que les ronces sont couvertes de sang depuis la maison. Ses vêtements sont en partie arrachés. Il y a des lambeaux qui se sont accrochés dans les barbelés, dans les ronces. Et on retrouve sur ses jambes et ses mains des griffures de ronces.
À ce moment-là, dans cette région d'Irlande, il n'y a pas encore vraiment de police scientifique.
Non, c'est un endroit très peu criminogène. Il n'y a pas eu de meurtre depuis 1922. Donc c'est la police locale qui enquête. Il n'y a pas à l'époque ni de police scientifique, ni même de police judiciaire spécialisée sur les choses criminelles. Le légiste, le médecin qui est censé constater la mort et faire les premières constatations, c'est toujours hyper important qu'il arrive vite. Et là, il va mettre 36 heures avant d'arriver. Le corps lui-même va être conservé sous une bâche alors qu'il va pleuvoir. Donc c'est évidemment très préjudiciable pour la suite de l'enquête et la conservation des indices.
Dans les jours qui suivent le meurtre, les policiers irlandais vont suspecter Ian Bailey. Pourquoi au tout départ ?
Au tout départ, en fait, les policiers qui sont dans le village de Skull remarquent un homme qui rentre affolé dans une boutique et qui demande le journal, l'Irish Times. Ils remarquent cet homme grand, imposant, avec des griffures sur les mains et sur le front.
Et d'autres policiers vont remarquer ces griffures ?
Oui, par la suite, il y a un questionnaire qui est apporté à tous les habitants du village pour connaître leur emploi du temps. Ils se rendent chez Jules Thomas, qui est la compagne de Ian Bailey. Il leur ouvre la porte et là, il note évidemment aussi ces griffures qui sont évidemment intéressantes au regard du crime.
Ian Bailey, il n'habite pas très loin de Sophie Toscan-Duplantier.
Non, c'est quelques minutes à pied. C'est pas directement à côté parce que c'est quand même là, c'est sur une lande, c'est la campagne, mais c'est totalement accessible à pied. Ça demande un peu de marche, mais c'est le même coin.
Et Ian Bailey, il faisait des travaux de jardinage pour une voisine de Sophie Toscan-Duplantier.
Ses voisins, dont la femme a découvert le corps, il avait fait des travaux de jardinage, c'était un an et demi plus tôt, et ils se souviennent bien qu'il a bien été mis en présence de Sophie Toscan-Duplantier.
Que dit Ian Bailey aux policiers irlandais sur ses griffures?
Ian Bailey, il explique en fait qu'il s'est blessé d'abord en coupant un sapin pour Noël et en tuant une dinde qui se serait débattue violemment et qui l'aurait donc griffé au front et au bras.
Mais ça ne tient pas vraiment.
Non, parce que les policiers irlandais, ils vont interroger les gens qui ont vu Ian Bailey le soir du 22 décembre. Il est censé avoir tué cette dinde et coupé le sapin le matin même. Et ce soir du 22, il était dans un pub et il était sur scène. Il a joué du bodhrán, un petit tambourin irlandais. Il avait les manches relevées. Il était en pleine lumière. Or, personne ne se souvient avoir vu la moindre marque au visage ou sur ses bras.
Autre élément surprenant pour les policiers, Ian Bailey et sa compagne, Jules Thomas, ont fait un feu à ce moment-là.
Une voisine raconte en effet qu'elle a vu un grand feu brûler le lendemain des faits. Feu dans lequel on va retrouver dans les débris des œillets de chaussures et des morceaux de tissu. Évidemment, ça pose question, qu'est-ce qu'on a eu envie de faire disparaître peut-être éventuellement après un crime ?
Une femme va raconter avoir vu Ian Bailey la nuit du meurtre, donc la nuit du 22 au 23 décembre 1996, pas très loin des lieux du crime.
Oui, c'est important parce que Ian Bailey, au départ, il dit qu'il n'a pas bougé de son lit. Après, il va infléchir sa version en disant qu'il s'est levé pour terminer un article qu'il devait rendre, qu'il n'a d'ailleurs pas rendu à la date prévue. Mais cette personne qui appelle en fait sous couvert d'anonymat, parce qu'on va savoir après, elle va être identifiée qu'elle se trouvait en fait avec son amant cette nuit-là. Donc, elle veut aider la police, mais elle appelle d'abord en se faisant passer pour quelqu'un d'autre pour dire « J'ai vu un homme qu'au départ elle n'identifie pas comme Ian Bailey. J'ai vu un homme avec un long manteau noir marcher en titubant à 3h du matin près de tel pont. » qui est dans la direction du lieu du crime. Et elle ajoute même que cette personne, elle l'a vu l'après-midi, puisqu'elle est commerçante, elle l'a vu l'après-midi même regarder Sophie Toscan du Plantier en centre-ville l'après-midi du 22.
Elle identifie, pour elle, c'est bien Ian Bailey.
Oui, parce qu'ensuite, on lui présente Ian Bailey, très identifiable avec ce grand manteau noir. Comme on dit, il passe pas inaperçu, tout le monde finit par comprendre que c'est bien lui.
Que dit Ian Bailey aux enquêteurs là-dessus ?
Alors lui, il nie avoir vu Sophie Toscan du Plantier l'après-midi dans la journée, et puis il nie bien sûr avoir été près de ce pont à ce moment-là.
Louise Colcombe, dans les jours et les semaines qui suivent, Ian Bailey va sembler aussi trop bien informé sur l'affaire.
Oui, c'est là où l'affaire prend un tour un peu surréaliste. C'est que Ian Bailey, il est journaliste pigiste à la base. Et donc là, le matin des faits, très tôt, il démarche des rédactions pour vendre des photos ou écrire des articles sur l'affaire. Il donne d'ailleurs à ce moment des éléments précis que personne n'est censé connaître. Par exemple, il donne l'identité de la victime assez vite. Il donne sa nationalité française. Et ensuite, il écrit. On lui commande des articles et il écrit sur l'affaire, avec des détails qui sont connus finalement que des enquêteurs ou du tueur. Par exemple, une trace de sang sur la porte arrière de la maison, des détails qu'il va donner aussi à un autre journaliste où il parle de draps froissés à l'étage. La maison et son entourage, les ronces, etc. sont parfaitement bien décrits, alors qu'il prétend ne pas vraiment bien connaître l'endroit. Il y a beaucoup de choses qui laissent penser que Ian Bailey, il s'est trouvé sur place avant qu'il se déplace en fait en tant que journaliste.
À ce moment-là, Ian Bailey, c'est un journaliste qui écrit finalement assez peu.
En fait, il a quitté une rédaction dans une grande ville pour venir là, mais il n'y a pas beaucoup de sujets, il ne vivait pas vraiment de ça en fait.
Et donc pour lui, cette affaire, c'est une aubaine.
Mais effectivement, pour lui, ça tombe bien. D'ailleurs, sa compagne, le matin des faits, elle va aller voir une commerçante. Elle lui dit « Non, Ian n'est pas avec moi. C'est super pour sa carrière, il y a un meurtre. » Enfin, c'est triste, hein, mais il est en train d'écrire sur un meurtre qui s'est produit ce matin.
Plusieurs femmes vont raconter aux policiers que Ian Bailey a parfois un comportement très suspect.
Ian Bailey, il est très connu localement et il fait peur aux femmes. Une amie de Jules Thomas raconte qu'un jour, elle dormait dans un cabanon sur sa propriété, qu'elle s'est réveillée avec une main sur la cuisse et qu'il s'était glissé dans ses draps. Les filles de Jules Thomas racontent aussi qu'il a parfois un comportement un peu équivoque, faisant des avances sexuelles. Et surtout, il y a plusieurs femmes seules qui rapportent qu'en fait, Ian Bailey, qui croit aux forces de la nature et à la pleine lune, il croit qu'il a des super pouvoirs, il se met à hurler comme un loup devant leur maison, la nuit, les soirs de pleine lune. Certaines ont raconté qu'elles dormaient avec des battes de baseball et des choses comme ça.
Pour se défendre de lui.
Oui, il fait peur à pas mal de femmes.
Et sa compagne, Jules Thomas, va avouer aux policiers qu'il est parfois violent avec elle.
Jules Thomas, elle reconnaît les violences, mais elle les minimise. Elle reconnaît un épisode majeur dans lequel il l'avait tabassée, il lui avait même arraché des cheveux, et à tel point qu'elle avait peur de lui, parce qu'elle avait fait venir un de ses amis qui a dormi 3 semaines sur le canapé du salon avec un maillet au cas où il reviendrait. Mais les filles de Jules Thomas avaient raconté qu'en réalité, des épisodes comme ça, il y en a eu énormément, et qu'en fait, c'est un homme qui est violent de façon systémique.
Il est très clairement suspect aux yeux des policiers irlandais, mais il nie les faits.
Oui, lui, il nie. Alors, il a changé de version des tonnes de fois sur son emploi du temps la nuit du meurtre. Jules Thomas, elle l'a toujours suivi. Il s'est rendu compte qu'il avait changé sa version, elle collait à sa version. Il y a tous ces éléments, son comportement violent, ses griffures, mais il maintient que ça n'est pas lui. Il est placé deux fois en garde à vue. À la très mauvaise surprise des enquêteurs, ils vont se rendre compte qu'en fait, le procureur va refuser de le mettre en examen, de l'inculper.
Parce que pour lui, il n'y a pas assez d'éléments concrets.
Oui, le procureur estime qu'on n'a pas d'éléments concrets, que c'est beaucoup de témoignages, que le témoignage qui le situe près des lieux du crime est à l'origine d'un témoignage sous couvert d'anonymat. Il n'y a pas de preuves scientifiques. Bon, à l'époque, l'ADN n'est pas très développé, mais voilà, il n'a pas laissé d'indice qui le relie directement au crime. Donc, pour plein de choses, le procureur va estimer que c'est trop faible et qu'on ne peut pas poursuivre dans ces conditions.
Quand il a bu, il semble parfois avouer le meurtre, plus ou moins clairement, par exemple, quand il prend dans sa voiture un jeune ado du coin en février 1997, donc à peine un peu plus d'un mois après les faits.
C'est un jeune homme qui s'appelle Malachi Reed, qui à l'époque il a 14 ans, il veut rentrer chez lui et il fait un coup un peu d'autostop et il demande en tout cas à Ian Bailey, qu'il a vu déjà quelques fois, s'il ne peut pas le rapprocher. Ian Bailey le prend en voiture et là il se rend compte qu'en fait Ian Bailey est ivre, une fois de plus, et il se met à lui parler de l'affaire. Il lui dit d'un seul coup « Je suis allé chez elle avec un caillou une nuit et je lui ai explosé sa putain de cervelle ». Malachi Reed, il reste un peu interdit et Bailey continue à parler et il va même lui ajouter « Je l'ai fait pour avoir une histoire pour les journaux ».
Comment il réagit ce garçon ?
Il est terrorisé, il a 14 ans, donc il rentre chez sa mère et lui en parle. Elle le rapporte à la police immédiatement. Elle pense que son fils est totalement crédible. Et d'ailleurs, il va être tellement traumatisé qu'il va dormir avec un bâton dans sa chambre pendant des mois par peur que Ian Bailey vienne s'en prendre à lui.
Même chose, le 20 février 1997, il parle à l'un de ses amis.
Et à cet ami, il dit quelque chose de très troublant. Il dit, un soir qu'ils parlent de l'affaire et qu'ils sont ivres, Ian Bailey, il fait une sorte d'aveu indirect. En tout cas, son ami comprend tout de suite qu'il est en train d'avouer le meurtre. Et ça, c'est noir sur blanc dans le dossier. Je vous lis la phrase exacte. C'est toi qui l'as fait. Tu l'as vu à Spar, qui est un petit magasin du centre-ville. Tu l'as vu à Spar, elle t'a chauffé en marchant dans les allées avec son cul serré. Donc, tu allais chez elle voir ce que tu pouvais en tirer. Mais elle ne s'est pas montrée intéressée. Tu l'as agressée. Elle s'est enfuie. Donc tu l'as poursuivie et tu lui as lancé quelque chose derrière la tête. Tu es allé beaucoup plus loin que tu ne le souhaitais.
Comment réagit son ami ?
Il a très peur parce qu'il sait que souvent, il utilise ce ton indirect, Ian Bailey. Et donc il comprend qu'en fait, il ne le désigne pas lui. En fait, Ian Bailey parle de lui-même, là. Donc là, il a peur pour sa vie. Il monte en voiture et il part en trombe pour s'éloigner d'Ian Bailey.
Et il a aussi avoué à d'autres personnes.
Oui, alors il dit toujours que c'est sur le ton de la blague ou qu'on a mal interprété, mais il va quand même dire un soir de Saint-Sylvestre à un couple d'amis, c'est moi qui l'ai fait, je suis allé trop loin. En pleurs, ivre. D'ailleurs, ils vont le recroiser après, lui dire, bah maintenant, on sait que c'est toi. De la même façon, il a une rédactrice en chef qui finit par lui dire, mais pourquoi tu écris sur l'affaire ? Tu ne m'as pas dit que tu étais suspecté. Et il dit, lui, que c'était une blague. Il dit, oui, bien sûr, je l'ai fait pour ressusciter ma carrière de journaliste.
Ces personnes dont vous parlez, Louise Colcombe, elles viennent témoigner au procès à Paris en mai 2019 ?
Oui, Bill Fuller, ce fameux ami, est venu. Même des années après, il a raconté son état de terreur quand il a entendu ses aveux. Enfin, en tout cas, pour lui, ce sont des aveux, clairement. Et Malachi Reed, lui, il a tellement été traumatisé par toute cette affaire, il n'avait pas envie de venir lui-même. Mais sa mère est venue, elle a fait le déplacement pour venir expliquer qu'elle a toujours cru son fils. Elle a rapporté tout ce qu'il lui a dit et les circonstances, le contexte de l'époque.
La femme qui avait vu Ian Bailey près des lieux du crime à 3h du matin, est-ce qu'elle est au procès ?
Non, Marie Farrell, c'est son nom, elle n'est pas venue. Elle s'est rétractée, mais 8 ans après les faits. Elle a vécu des pressions de Ian Bailey, elle s'en est plainte plusieurs fois auprès de la police. Elle a peur de lui, il l'a menacée. Quand la police l'avait relancée pour essayer de relancer l'enquête, elle a toujours dit qu'elle ne voulait plus rien avoir à faire avec cette histoire en disant « ma vie vaut plus que ça ».
Louise Colcombe, vous avez suivi ce procès pour Le Parisien à l'ancien palais de justice de Paris, en plein cœur de Paris. Qu'est-ce qui vous a frappé pendant ces journées d'audience ?
La bizarrerie d'un procès sans accusé, sans défense, qui est assez inhabituel, mais surtout, on est là quand même face à un procès qui s'ouvre avec quelqu'un qui est suspect depuis le premier jour. Mais le premier jour dont on parle, c'était il y a 23 ans. Les parents de Sophie Toscan du Plantier sont là, sont venus, ils sont très âgés. Pour eux, c'est un aboutissement qu'il y a un procès dans cette affaire, c'est presque inespéré. Et puis, il y a Pierre-Louis Beaudet-Vignot, donc le fils unique de Sophie Toscan du Plantier, qui a grandi. Quand le procès a lieu, il a l'âge qu'avait sa mère quand elle est décédée. Pour lui, c'est énormément d'émotions, pour les proches aussi de Sophie, les amis de Daniel Toscan du Plantier, qui est lui-même décédé depuis. C'est vraiment beaucoup d'émotions, et symboliquement, cette audience, elle était très forte.
Je le disais au début de ce podcast, Louise Colcombé, vous avez rencontré Ian Bailey, vous êtes allé en Irlande en 2016, 20 ans après le meurtre de Sophie Toscan-Duplantier, à Skull, pour le rencontrer. Est-ce qu'il a accepté facilement d'abord ?
Ah oui, alors Ian Bailey, il adore les journalistes, il adore qu'on parle de lui, donc c'est aucun problème. Je l'ai appelé, il m'a dit oui, bien sûr, il se souvenait parfaitement de mes confrères et consoeurs du journal qui avaient traité l'affaire à l'époque, parce qu'à l'époque, il répondait aussi volontiers aux journalistes en s'exprimant à la fois comme confrère et comme suspect. C'était, ça a toujours été très étrange. Et donc, on est allé chez lui, chez Jules Thomas, avec ma consoeur photographe et vidéaste, et il nous a reçus pendant 2 heures. En même temps, d'ailleurs, il y avait des journalistes de la BBC qui faisaient un documentaire. Enfin, il ne refuse quasiment aucune interview.
Alors, racontez-nous la première fois où vous le voyez.
Alors, j'avais vu énormément de photos de lui, mais c'est vrai que quand il ouvre la porte, c'est comme un colosse, quoi. Il est vraiment imposant. Il a une carrure, il a des grandes mâchoires, des grandes épaules, des mains immenses. Il a un côté géant. Et en même temps, il a ce côté très affable, très cordial, avec cet accent très british.
I was involved as a reporter, a journalist. Within, I think, 5 or 6 weeks after the crime, the murder of Sophie Toscan-Duplantier, both I and myself were arrested for the murder.
Et quand bien même on lui pose des questions un peu piquantes, il répond toujours avec le sourire.
All I know is this, that a number of police officers, most of them now, if not dead, retired, conspired to frame me.
Et il déroule son histoire.
And what would you say to that family?
What I would say is that whatever you believe, I have absolutely nothing to do with the murder of your daughter.
Ça fait 23 ans qu'il répète la même chose. Il a pour lui quand même ce rapport du procureur irlandais qui égrène toutes les raisons pour lesquelles il considère qu'il ne doit pas être poursuivi. Donc c'est un peu sa planche de salut, il s'y raccroche et il le cite très volontiers.
Il était plutôt beau gosse il y a une vingtaine d'années, c'est toujours le cas ?
Évidemment, les années ont passé et puis il est quand même notoirement connu pour boire un peu trop. Ça laisse des traces et puis il est quand même, il faut le dire, angoissé, on peut comprendre, par cette histoire qu'il poursuit depuis 23 ans. Il ne peut pas quitter l'Irlande parce qu'il est quand même sous le coup d'une demande d'extradition formulée par la France. Refusée par l'Irlande, mais il ne peut pas quitter l'Irlande. Il n'a plus vu ses proches depuis des années. Il ne peut pas vraiment travailler, personne ne veut l'embaucher. Voilà, il est un peu prisonnier de son propre état et du coup, il est marqué physiquement.
Et il fait quoi de ses journées ?
Alors, il écrit un peu de poésie. D'ailleurs, il a autopublié des recueils qui se vendent sur Amazon. Il continue à faire des sculptures sur bois. Et puis, avec sa compagne, ils font pousser des légumes dans son potager. Et donc, ils vendent sur le marché du coin des tartes, des légumes. Voilà, il vit un peu d'expédient.
Et il vit toujours donc à Skull. Comment est-ce qu'il est perçu par les autres habitants ?
Bah, à Skull, tout le monde pense que c'est lui le coupable, hein. C'est assez clair quand j'y suis allée. Les gens n'ont pas trop envie de parler, de donner leur nom quand on les interroge parce qu'ils ne veulent pas avoir de problème, ils ont quand même un peu peur de lui, même s'il est totalement affable quand on le voit comme ça. Le crime est odieux, il a vraiment marqué la région. Et puis il le trouve assez fascinant parce que il faut savoir qu'en Irlande, cette histoire est hyper médiatisée, beaucoup plus qu'en France. Ian Bailey, c'est quasiment une star. Il a un avocat le plus connu du barreau irlandais. Cette affaire, elle a marqué l'Irlande. Il a fait des procès à la presse en diffamation. Il a fait un procès à l'État irlandais. Il a tout perdu. Mais voilà, c'est quelqu'un qui vit à travers ça et tout le monde le connaît.
Et qu'est-ce que ça fait d'être face à un homme comme ça qui est suspecté de meurtre et qui est considéré par tout le monde sur place comme le tueur?
J'avoue que c'est assez inhabituel. Ça peut arriver quand on travaille dans police-justice, mais c'est pas courant. Et surtout, c'est pas courant qu'ils vous reçoivent très gentiment. Il était en train de préparer, c'était Noël, donc il préparait des tartes en même temps qu'il me répondait. Voilà, il était en train de faire ses tartes, j'étais dans sa cuisine et il me parlait d'un meurtre dont tout le monde pense qu'il l'a commis. C'est assez troublant, j'avoue que j'y serais pas allée seule à minuit, par exemple.
Louise Colcombé, on en revient au procès de 2019 à Paris où Ian Bailey est jugé par défaut. Le soir du 31 mai, la cour d'assises de Paris rend son verdict.
Ian Bailey est reconnu coupable du meurtre de Sophie Toscan-Duplantier et il est condamné à une peine de 25 ans de prison.
Comment réagit le fils de Sophie Toscan-Duplantier, Pierre-Louis Baudet-Vigno ?
Ce qui m'a frappé moi à ce moment-là, c'est que tous les autres proches de Sophie Toscan-Duplantier se sont levés, se sont pris dans les bras. Pierre-Louis, il est resté très prostré, en fait, comme si il avait du mal à y croire. Voilà, il a été pris par l'émotion, il s'est un petit peu tourné vers une fenêtre, enfin, très pudiquement, je l'ai vu essuyer quelques larmes.
C'est une victoire. Après 22 ans d'attente,
22 ans de souffrance, 22 ans de questions. Il a tué ma mère il y a 22 ans. Il n'y a pas eu de jugement en Irlande et il y a eu un jugement aujourd'hui en France dans lequel il a été condamné coupable.
Ce qu'il souhaite, lui, c'est que Ian Bailey soit extradé en France, auquel cas la procédure prévoit qu'on annule cette condamnation, on refait un procès, où là, il s'explique, il a un avocat, et qu'enfin, on entende ses explications, qu'on le mette face à ses contradictions, face aux témoignages qui l'accablent, et il souhaite évidemment qu'il soit reconnu coupable et qu'il purge une peine de prison.
Pierre-Louis Baudet-Vigneault, il retourne parfois à Skull ?
Oui, il a conservé cette maison qui, à la fois, paradoxalement, c'est le lieu où sa mère est morte, mais c'est aussi un lieu auquel il est extrêmement attaché parce que c'est un lieu qu'elle adorait. C'est là où elle a vécu ses derniers instants de vie, donc ça le rattache à elle. Donc il a conservé cette maison, il y va avec ses propres enfants, sa femme. Ce qui est perturbant pour lui, c'est qu'il peut croiser parfois Ian Bailey et il me racontait une fois qu'il l'avait croisé dans un supermarché, qu'il avait dû repartir immédiatement parce qu'il avait été complètement traumatisé, qu'il avait mis des jours et des jours à s'en remettre.
Merci à Louise Colcombé. Code Source part en vacances, mais nous vous avons préparé 12 épisodes pour ces vacances de série d'été. La première, Choix de vie, 6 hommes et femmes racontent leur changement de vie. La seconde, Les étés des Bleus, 84, 98, 2000, 2006, 2016 et 2018. Publication des épisodes chaque lundi et mercredi. Et Code Source revient, bien sûr, en quotidien le lundi 31 août. L'épisode que vous venez d'entendre a été préparé par Marion Botorel, production John Timsit, réalisation Julien Moncouquiol. Je vous souhaite un très bel été.
This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.